Ah, ceux que j'ai pas vus aussi. Va, ça bouge pas. Ça. Alors le thème va aller dans la continuité un peu de ce qu'a dit Manu. Aujourd'hui est fêtée l'abolition de l'esclavage. Et l'esclavage a, par moi, dans ma tête, a toujours été une connotation négative. D'ailleurs, je me souviens quand on était petit, dès qu'il y en avait un qui allait essuyer le tableau du maître, il disait « Ah, esclave !» C'était vraiment, c'était négatif, c'était quelque chose qui était rabaissant. Et on n'aimait pas être traité d'esclave. Ça avait une notion vraiment négative. Et là, je me suis posé plein de questions et en même temps, je me suis dit, est-ce que je peux en trouver une connotation positive? Alors, c'est pas simple. Mais, avec la parole de Dieu, c'est possible. Et, on a vraiment une grâce, un privilège, c'est de pouvoir louer le Seigneur avec liberté. Esclave, liberté, c'est vraiment c'est deux mots qui sont joints l'un à l'autre, c'est l'opposé, entre guillemets. Je me suis posé aussi la question, suis-je un esclave? Suis-je un esclave de Christ? Je posais la question. Serviteur, esclave, est-ce que c'est la même racine ou pas? Et vaut-il mieux être esclave du péché ou esclave de Christ? Seulement, ce que je vois dans les évangiles, c'est que le Seigneur nous élève au-dessus d'un esclave, même si on est à son service. Comme dit un passage dans la Bible, il dit que le serviteur a les yeux fixés sur la main de son maître. On pourrait traduire, l'esclave a les yeux fixés sur la main de son maître, et dès que son maître, il fait, hop, tout de suite, il est là, il obéit, il est prêt, prompt, à aller jusqu'au bout, jusque dans les chaînes, jusqu'en prison, jusqu'à la mort, pour son maître, pour servir son maître. Et le Seigneur va nous parler un peu plus qu'esclave. Plus d'amitié, d'amour. Il nous aime. Dans l'une des épîtres de Paul, non, de Pierre, il dit cette phrase, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, il y a beaucoup de choses dans le passé qui ont triomphé de nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a triomphé de vous. Ce matin, c'est Jésus-Christ. Je crois que c'est lui qui a triomphé et qui a réussi à nous convaincre que sa parole est juste, que son message est juste et que j'en avais besoin. Ça a peut-être été un combat pour certains, sur plusieurs années ou sur plusieurs mois ou autre. Mais celui qui a triomphé, c'est Jésus-Christ. Donc je crois que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est que Jésus-Christ a triomphé de nous. On a parlé de liberté. La liberté, c'est aussi c'est un mot qui est propagé dans le monde entier. On entend ça dans tous les médias. Liberté, égalité, couscous, tout ça que tout le monde connaît. La liberté, c'est vraiment quelque chose auquel les gens ils tiennent à leur liberté. C'est vraiment un mot qui est très fort. Il y en a qui vont jusqu'à parcourir les mers et fuir leur pays pour trouver la liberté. Et la liberté, c'est quelque chose, c'est emblématique, c'est un emblème, c'est vraiment, il y en a qui en ont fait une statue, hein, statue de la liberté, porte bien son nom. Elle est figée. Et, cette liberté, on y tient tous. Pourtant, Jésus nous dit cette parole, nous dit cette phrase, la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchira. Elle nous rendra réellement libres. Alors, liberté, pas liberté, sommes-nous libres, sommes-nous pas libres? Jésus nous dit, mais c'est la vérité, c'est ma parole, c'est la vérité, c'est elle qui va vous rendre vraiment libre. Alors là, il faut se poser des questions, alors ça veut dire que le monde est encore sous l'esclavage d'autres personnes, d'un autre maître. La vérité nous affranchira et nous rendra réellement libres. Qui dit affranchir, utilise un mot affranchir, c'est comme ça qu'à l'époque on affranchissait, on utilisait le mot affranchir les esclaves. Et si je me trompe, je sais qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi dans certains domaines, dans certains mots. Donc je compte sur eux pour reprendre s'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites de la bonne manière. Qui dit affranchir dit esclave. Qui dit esclave dit aussi maître. Un esclave sans maître, c'est pas un esclave. Un esclave a forcément un maître à qui il obéit. Et nous savons que le maître de ce monde, il a ses esclaves. Le maître de ce monde, lui, il est sans pitié pour ses esclaves. Ils lui appartiennent, les gens s'en rendent pas forcément compte. C'est lui le maître, il s'en occupe, mais je peux vous dire qu'il les traite d'une manière comme il a envie de les traiter. Alors, sommes-nous libres? Nous vivons dans un pays libre. Mais est-ce que nous sommes vraiment libres? Les Juifs le croyaient aussi. Les Juifs étaient convaincus qu'ils étaient libres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 31, il est dit ceci. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et ils répondirent, « nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais sous l'esclavage de personne. » Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. Je retiens cette phrase, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. C'est pas vrai. La moitié de l'existence du peuple d'Israël a été d'être sous la domination de peuples étrangers. On en a parlé tout à l'heure, ils ont passé au moins 4 siècles en esclavage au pays d'Égypte. Ils ont été aussi 70 ans à Babylone, un esclavage à Babylone. Ils ont été aussi sous la domination des Mèdes et des Perses. Ils ont été aussi sous la domination des Grecs. Et ensuite, le dernier joug, c'est les Romains. Ils étaient aussi sous le joug des Romains. Donc, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Non, ils l'ont été. Donc les Juifs n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire par rapport à ces paroles. Car Jésus leur parlait non pas du corps, non pas de l'esclavage du corps, mais d'une forme d'esclavage beaucoup plus grave, l'esclavage du péché. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors souvent, ce qui est étrange, c'est que un esclave n'est pas forcément conscient qu'il est esclave. Je dirais qu'un drogué, un toxicomane, n'est pas forcément conscient que pour lui, il n'est pas forcément esclave de la drogue. Un alcoolique, quelqu'un qui boit beaucoup, vous dira non, je suis pas esclave, je peux m'arrêter quand je veux. Je peux m'arrêter quand je veux, mais un esclave peut-il s'affranchir? Est-ce que les liens dans lesquels il est peuvent-ils se délier comme ça? Qui a déjà vu L'Exorciste? Qui a déjà vu ce film? Ah oui, comme 1, 2, 3, 4, L'Exorciste. On a une histoire dans la Bible qui est pire que L'Exorciste. Je vais vous parler de cette histoire de cet homme qui a un esprit impur. Il vit dans un pays qu'on appelle le pays des Gadaréniens, si je le prononce bien. Jésus nous dit qu'il est allé dans ce pays et qu'à peine il a posé le pied sur la terre de ce pays, il vint au-devant de lui un homme qui sortait des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Alors, l'histoire de cet homme, on ne la connaît pas grand-chose, hein, sans lui. Hein. Alors, est-ce qu'il avait de la famille? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un homme d'affaires? Est-ce que c'était, il était boulanger? Est-ce qu'il était, c'était un vendeur, un marchand? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était berger ou s'occupait du troupeau, des porcs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait un métier? Ou est-ce qu'il était chômeur? Je ne sais pas. Est-ce que cet homme avait une famille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'il est devenu. Satan a fait de lui une ruine. Je ne sais pas combien de temps ça a duré de sa vie, mais il en a fait une ruine. Il l'a chassé de son foyer, il l'a séparé de sa famille, il l'a séparé de ses amis, il en a fait un monstre, et même plus qu'un monstre, une bête dangereuse, parce qu'il ne fallait pas passer à côté de lui, sinon il prenait un caillou, je lui le balançais. Il l'a changé en un monstre. Le diable lui a tout volé. Il lui a volé sa maison, il lui a volé son foyer, il lui a volé sa famille, il lui a volé ses amis, il lui a même volé ses vêtements. Il lui a volé aussi son intelligence. Il lui a aussi volé sa dignité humaine. Il lui a même volé son sommeil parce qu'il ne dormait plus. Toute une légion d'hommes, 6 000 démons dans ce pauvre homme. Cet homme n'était pas libre. Au contraire, il était entièrement possédé. Les démons faisaient de lui ce qu'ils voulaient. Cette histoire, c'est une image très misérable de la condition humaine dans laquelle on peut se retrouver. Mais ce qui est important, c'est pas seulement le commencement de cette histoire, c'est aussi la fin de cette histoire. Ce qui est important, c'est aussi la fin. Ce qu'il a été, c'est une chose, mais ce qu'il est devenu, c'est une autre chose. Je crois que ce qui est important, c'est ce qu'il est devenu. Jésus est venu pour racheter à un grand prix, au prix de sa vie, ceux qui étaient esclaves du péché. Or, contrairement aux esclaves, qui n'avaient aucun mot à dire en ce qui concerne le rachat, nous avons le choix, nous avons cette liberté de choisir notre maître. Par contre, nous sommes obligés d'en choisir un. Et on n'a pas vraiment le choix, parce que si on n'est pas chez un maître, on est forcément chez l'autre. Juste milieu, il n'y en a pas. Donc, par contre, nous sommes obligés donc de choisir un maître. Notre liberté peut devenir une réalité, une vérité, si nous choisissons le bon maître. Celui qui peut vraiment nous rendre libres. Et Jésus nous a rappelé une chose, que nous ne pouvons pas servir de maître. L'esclave est appelé à faire un travail. Jésus, le bon maître, a préparé des œuvres d'avance pour que ses esclaves puissent le mettre en pratique. Ça va, ça vous a pas choqué, là? Vous êtes traité d'esclave. Non? Pour que ses esclaves puissent le mettre en pratique. Paul, Pierre, Jude, Jean se présentent comme des esclaves de Jésus-Christ. C'est une image qu'on n'utilise pas souvent, voire même pas du tout, sauf aujourd'hui. On dit souvent frère, enfant de Dieu. Salut tard, mon frère en Christ. J'ai jamais entendu « Salut tard, esclave de Jésus-Christ ». J'ai jamais entendu ça. Il faut dire que dans notre manière de penser, comme je disais tout à l'heure, la condition d'esclave, c'est quelque chose de très... Déjà je fais la grimace, hein, l'esclave... condition d'esclave, c'est quelque chose qui est... Il y a un mot qu'on utilise, c'est servilité. C'est-à-dire, servir de la manière la plus dégradante. C'est l'image de l'abaissement, c'est l'image de l'écrasement de la personnalité, l'esclave, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, la perte de la dignité humaine. Des esclaves ont vécu ça dans l'histoire du monde, de l'humanité, ont vécu tout ça, toutes ces choses. Lui, Jésus-Christ, il est à l'opposé du maître tyrannique, il est à l'opposé du maître dominateur. Le maître dominateur qui, lui, ne se soucie pas de ses esclaves, mais qui va en profiter un maximum. Ça va jusqu'à là ? Alors, lui, Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Est-ce que c'est un joug, hein? En regardant le dictionnaire, il nous parle du joug là qu'on met sur les animaux là pour labourer, voilà, les bêtes, pour labourer. Voilà. Prenez mon joug. Donc lui, il en a déjà un, et il nous demande de le prendre. « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. » Vraiment, c'est... On entend le mot « obéissance » derrière tout ça. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, devenir esclave de Christ, c'est s'offrir l'opportunité et le privilège de grandir. C'est de découvrir le potentiel que Dieu a mis en nous, qu'il a placé en nous, pour que nous puissions avoir un rôle ici-bas. Demeurer esclave du péché, c'est s'enfoncer toujours plus dans la servilité et l'abaissement. esclave, mais libre. La liberté dans le Seigneur, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Car le péché qui nous enveloppe si facilement cherche toujours, d'une manière ou d'une autre, à nous remettre sous le joug de l'esclavage. Comme disait l'apôtre Paul, il nous faut être vigilants. Il nous faut être vigilants, comme il a dit aussi aux Corinthiens, qu'ils ne se laisseraient pas asservir par quoi que ce soit. Son engagement était total, au service du Seigneur, et en s'attachant à sa parole, à la parole de Jésus-Christ, l'apôtre Paul est devenu réellement libre. Dans l'Épître aux Galates, il nous a rappelé ceci, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne laissez pas vous mettre d'autres jougs de servitude sur les épaules. Esclave, oui, mais pour Christ, bien plus qu'un esclave. Si notre position en Christ nous demande l'obéissance d'un esclave, entre guillemets, c'est pour goûter à la liberté. C'est pour goûter à la vraie liberté, celle que Christ nous donne. Notre Seigneur, lui, nous considère d'une manière différente. Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. » Je pourrais dire, « Je ne vous appelle plus mes esclaves, mais je vous appelle mes amis. » Cela démontre que la relation que nous entretenons avec Jésus-Christ dépasse celle de l'esclave. Il y a aussi cette lettre, Yann nous en avait parlé déjà une fois, lettre de Paul à Philémon, ne trompe pas. Il lui dit ceci en parlant de Onésime. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. On a aussi une autre image dans l'Exode, on va parler un peu tout à l'heure. On a cette image de, à l'époque, un esclave avait un certain temps et à un moment donné, il pouvait être affranchi s'il a fait telle tant de périodes. Il pouvait être aussi affranchi s'il avait perdu un œil ou une dent. Il pouvait retrouver sa liberté. Comme on dit, la liberté a un prix. Mais l'esclave pouvait aussi demander à rester avec son maître. C'est dans le livre d'Exode qu'on trouve ça. Exode chapitre 21, versets 5 et 6. Mais le serviteur dit, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le fera venir devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira à toujours. Nous sommes appelés à servir le Seigneur pour toujours. Christ nous a affranchis du péché et nous voulons, par amour, rester à son service comme un esclave marqué par l'obéissance. On va prendre Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 6, à partir du verset 15. Romains chapitre 6 à partir du verset 15. Quoi donc ? Pécherions-nous ? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont nous rougissons encore aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'humilité nous montre nous-mêmes comme des esclaves de Christ, comme des esclaves de Jésus-Christ. L'amour nous montre comme ses enfants. L'un comme l'autre produit en nous un cœur reconnaissant, désireux de le manifester par l'obéissance à sa parole et pour accomplir les œuvres que le Maître a planifiées pour nous. Jésus a mis le comble à son amour en prenant la position d'esclave, en lavant les pieds de ses disciples. Nous aussi, nous mettons le comble à notre amour pour Jésus en nous appliquant à servir nos frères et nos sœurs. Alors Jésus nous donne aussi cette promesse que nous serons heureux. Nous avons été créés libres, mais le péché a entamé cette liberté. Pour nous redonner accès à la liberté, Jésus-Christ a payé le prix de sa vie. Ayant fait cela, il peut maintenant nous dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Personne ne pouvait payer le prix. Personne. Personne ne pouvait payer le prix, un prix aussi grand pour nous rendre libres. Jésus l'a fait. Souvenons-nous que notre liberté n'a pas de prix, car elle a été payée au prix le plus fort que l'on puisse même imaginer, le Fils de Dieu lui-même s'est donné pour nous. Et je conclurai par cette prière. Merci Seigneur d'avoir payé notre dette. Merci de nous avoir offert la liberté en toi. Tu as payé pour nous. Tu as payé pour que nous soyons libres. Aide-nous à préserver ce don si précieux que tu nous as accordé. Amen. Merci de m'avoir écouté.